Bonjour à tous. Le Festival de Cannes s'ouvre ce soir dans la grande table des idées. La chercheuse Joëlle Farchi reviendra sur la polémique Netflix et au-delà sur ce que le géant du streaming fait au cinéma avec la journaliste Valentine Faure du nouveau magazine littéraire à retrouver à partir de 12h55. Mais d'abord, le cinéma fait des bulles avec les éditions Glénat qui fêtent leurs 50 ans et lancent une collection de BD sur les grandes figures du cinéma. Le premier volume est dédié à Sergio Leone, pape du western, réalisateur de Il était une fois dans l'Ouest, puis en Amérique, ou encore de Le Bon, la Brute et le Truand, signé de l'écrivain, scénariste, acteur critique et historien du cinéma Noël Simsolo, auteur d'un ouvrage de référence déjà des conversations confidences avec le cinéaste romain. Il est notre invité ce midi, avant de retrouver dans une vingtaine de minutes en direct de Cannes, le critique Philippe Azoury.
La grande table. Olivia Jesbert.
Mais d'abord, retour rapide sur les consécrations hier au Molière. C'est du théâtre dont nous allons vous parler avec cette soirée qui a vu l'humoriste Blanche Gardin, une nouvelle fois récompensée pour son spectacle Bonne Nuit Blanche, actuellement à l'Européen mais déjà complet. Chapeau aussi à la machine de Turing, quatre fois moliérisée, au metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, qu'on le recevait ici avec Olivier Cadiot pour sa Nuit des Rois à la Comédie Française, et à Marina Foïs, Molière de la meilleure comédienne dans le théâtre public pour son interprétation des idoles de Christophe Honoré, une pièce créée à Vidi.
J'avoue que j'ai retrouvé Guibert pour Honoré et que je l'aime passionnément. Je suis un peu mytho, donc j'ai l'impression de le connaître un peu et de vivre avec lui. Il est devenu, il est devenu une figure très proche de moi. Les films de Jacques Demy, comme beaucoup de gens qui font du cinéma, m'habitent, me portent, me réconfortent, me font du bien. Je veux dire, c'est quand même très rare. Il le dit, Demy, dis-moi, j'espère que les gens sortent de mes films un peu moins moroses qui ne sont entrés dans la salle. Moi, c'est exactement l'effet qu'il me fait. Je baise les pieds de celui qui m'amène de la joie, mais qui qu'il soit. Donc Demy, ouais, fait partie de mes idoles absolument. Moi, j'étais dans une école de théâtre à 20 ans. On travaillait tous Coltès. Moi, je traînais aux Amandiers. En fait, c'est des figures qui sont là dans ma vie depuis toujours.
Marina Foïs était l'invitée de la Grande Table le 16 janvier dernier pour nous parler de ce rôle. Elle interprétait l'écrivain Hervé Guibert dans cette pièce de Christophe Honoré et pour évoquer ses idoles à elle. Bravo donc pour ce Molière de la meilleure comédienne. Bonjour Noël Simsolo.
Bonjour.
Dans cette nouvelle collection 9,5 figureront tous vos idoles à vous, vos idoles de cinéma?
Non, pas forcément toutes mes idoles à moi, mais disons que pour l'instant, quand Franck Margain m'a proposé avec lui de s'occuper de cette collection pour les 50 ans, disons, de Glénat, la discussion était très très simple, c'est que dans un premier temps, je faisais les réalisateurs et j'ai dit, moi je ne veux pas faire les acteurs tout de suite, un seul Gabin, et c'est écrit, et donc le problème a été de chercher, disons, des scénaristes et également de chercher des noms. Alors la situation était très simple, c'est qu'au départ, Franck Margain a dit, je veux que tu fasses Sergio Leone. Bah, il connaissait mes rapports personnels et intimes que j'avais avec Sergio, donc c'était un peu pour lui une nécessité. Ensuite, de quoi on a discuté, et on est tombé sur Hitchcock, qui pour moi était quand même un maître, j'avais beaucoup écrit sur lui, et on a continué avec Truffaut, parce que j'avais connu François, donc Truffaut. Et ensuite, de quoi on a cherché des acteurs, lui voulait Ventura et Devers. J'étais d'accord pour les deux.
Il a gagné, ce sera le deuxième volume.
Oui, qui est paru, qui est assez admirable d'ailleurs.
Et L'œil de verre.
Magnifique.
Par un autre, pardon, juste parenthèse, par un autre duo de scénaristes dessinateurs. Cette fois, ce sera Arnaud Le Guéflec. Et Stéphane Wary. Alors que ici, pour Sergio Leone, vous co-signez cette bande dessinée, vous au scénario, avec le dessinateur Philan,
qui est un scénateur d'origine vietnamienne et qui dessine très très bien. Donc je voudrais juste terminer. Et je lui ai proposé Jane Mansfield. Et c'est Jean-Michel Dupont, qu'on ne présente plus comme un grand scénariste de bande dessinée, et qui le fait, et voilà. On en est là pour l'instant, et on va voir par la suite. Il y a d'autres projets, bien sûr. Mais c'est pas mes idoles à moi, c'est-à-dire que
quand
si
même
vous voulez,
un peu. Bah, vous avez écoutez, beaucoup présidé au choix. Monsieur,
aujourd'hui, on ouvre le Festival de Cannes. Bon. Le Festival de Cannes, jusque les années 85-86, c'est à partir de là que j'ai commencé à pu y aller, c'était un endroit ouvert, c'était open bar. C'est-à-dire qu'on allait dans un hôtel, on rencontrait des cinéastes qu'on a admirait, on discutait avec eux, on allait même démanger avec eux. Aujourd'hui, il y a un système où c'est plus possible.
Bertrand Tavernier me raconte... C'est Fort Knox, un peu.
Ah non,
fermé.
Tavernier me racontait, quand il était avec son propre fils, il n'a pas pu voir les films des autres ni ses amis. Je veux dire, bon, il y a un système qui est fermé comme ça. Et c'est, moi, j'ai baigné avec insolence dans une période où je rencontrais tous les gens que j'admirais. C'était formidable. Je n'ai la vie de certains, ou le compagnon d'autres, ou même travailler parfois avec certains. Donc, j'ai eu cette chance extraordinaire dans ma vie, y compris dans cette maison, à France Culture. Donc, vous savez, en fait, des idoles, oui, j'ai des idoles, mais mes véritables idoles, je les dirai pas.
Peut-être à la fin.
Je ne sais pas.
D'accord. Donc, c'est pas Sergio Leone, l'une de vos véritables idoles.
Non, c'était un ami.
Alors, vous allez nous raconter cette relation particulière que vous avez déjà évoquée. Comment définir la place qu'il occupe, alors non pas dans votre, ou qu'il a occupé dans votre vie, mais dans votre cinéma? C'est quand même un cinéaste atypique. Comment se fait la rencontre et quelle affinité vont vraiment se tisser entre vous?
Alors, je vais essayer d'être bref, parce que ça pourrait être très très long. Disons, quand j'ai découvert Pour une poignée de dollars, comme beaucoup de gens, qui était signé Bob Robertson, j'avais trouvé ça très intéressant à une époque où un cinéphile n'avait pas le droit d'aimer ce genre de produit. Mais j'avais vu auparavant Le Colosse de Rhodes, et j'avais trouvé que Sergio Leone, que je ne connaissais pas à l'époque, le nom, avait réussi un péplum pas ennuyeux, alors que je voyais des péplums italiens insupportables. Et par la suite, quand j'ai vu les films qu'il a signés lui-même, peu à peu, j'ai découvert à quel point c'était un cinéaste très important, et on était très très peu à le défendre. Puis est arrivé...
Et Le Colosse de Rhodes, vous avez 16 ans, hein, c'est juste
Le Colosse de Rhodes, j'avais 15-16 ans.
Vous êtes tout minot. Ça, c'est la rencontre derrière l'écran. Après, vous allez rencontrer l'homme, plus tard.
Alors, je rencontre Sergio au moment de Il était une fois à la Révolution, par Michel Camp, pour Zoom. Je fais un entretien avec lui et par la suite j'écris un long texte, le premier texte en français publié dans la Revue du Cinéma Imagesson sur lui, et il cherche à me joindre pour me voir et je ne peux pas, je ne sais plus ce que je faisais, je devais partir quelque part à l'étranger et tout, et c'est seulement en 73 au Festival de Cannes, vous voyez, on revient à Cannes, où c'est lui qui est venu sur moi, et quand Sergio Leone vient sur vous et dit bonjour, je sais que tu ne te rappelles pas de moi, moi je me rappelle de toi, on va manger demain chez Tétou, et au Canet, une bouillabaisse, et à partir de là on s'est pour ainsi dire, je n'irai pas plus quitter, mais on s'est vu en permanence chez lui, à Paris, dans les festivals il me faisait venir, chez lui, disons, à Rome, jusque sa mort. Quoi. On était très très proches. Il devait être le parrain de ma fille, il est mort juste au moment où il devait venir pour ça. Quoi.
En 89. Hein,
89.
Vous racontez d'ailleurs en ouverture de cette bande dessinée son incroyable présence sur les plateaux qui fait qu'il va tout de suite intéresser, captiver les plus grands réalisateurs alors qu'il est tout jeune à l'époque. Il dirige au début les figurants, les foules, comme on le disait dans les films. Il était, vous racontez comment il vous a reconnu. Il était très physionomiste, il avait aussi ce regard toujours tourné vers l'autre. C'était une de ses qualités?
Oui, c'est-à-dire qu'il avait à la fois une qualité qui était, que certains trouveraient un défaut, moi je trouve magnifiquement comme qualité, c'est qu'il reconnaissait très 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 bien les gens, et comme il n'aimait pas, disons, être violent avec les gens, il les laissait l'embêter, comme il dit, et il savait s'en débarrasser avec élégance, ou alors les laisser tomber tout seul comme un fruit pourri d'un arbre, il disait. Mais je vais vous raconter une anecdote qui va vous dire qui était Sergio beaucoup plus que tout ce qu'on pourrait dire. C'est qu'un jour, on est dans un studio de télévision, il était en direct, moi j'attendais, disons, derrière la caméra, puis on descend, et il y a une fille, pas très jolie, assez jeune, un peu acnéeuse, qui a 13 ans et demi, 14 ans, qui vient vers lui, oh, monsieur Leone, je voudrais faire du cinéma avec vous. Et Sergio la regarde et dit, ah, mais le film que je prépare est en anglais, vous parlez anglais, bien sûr. Non, ah, bah alors, le prochain. Et il lui a fait un sourire et lui a serré la main. C'est formidable, c'était une manière élégante de se débarrasser des gens. Bon, il avait cette force-là, et quand il était pour les figurants, il connaissait tous les figurants de Rome, et il les connaissait tellement bien que, comme il ne parlait pas un mot d'anglais, il n'a jamais parlé anglais, Sergio, il y avait un traducteur qui traduisait en anglais au metteur en scène ce qu'il disait, lui, aux figurants en italien. C'est le seul second assistant qui avait un traducteur.
Je pensais que vous alliez me dire que la jeune femme avec son défaut de diction et son acné qui a dû se résorber depuis, allait devenir Sophia Loren ou Brigitte Bardot, mais ça, non, l'histoire le dit pas.
Moi, je vous parle du moment et, disons, de l'image. Je vous ai décrit l'image. Je vous ai pas dit qu'elle était pas bien, cette jeune fille. J'ai dit l'image que ça donnait. Il y avait Monsieur Leone, il y avait moi, il y avait cette fille à l'âge difficile, comme on dit, physiquement et tout. Et au lieu de se moquer d'elle et dire, ah bah non, excusez-moi, j'ai pas le temps et tout, il a répondu avec une gentillesse incroyable. C'est ça que je veux dire.
Il a débusqué qui? Il a trouvé qui? Il a révélé quel acteur ou quelle actrice?
Oh, il a révélé quel acteur ou quelle actrice. On peut dire qu'il a révélé. Révélé n'est pas le mot. Il a mis sur un piédestal des gens qui n'étaient pas encore sur un piédestal. Pense à Gian Maria Volonté, qui était un acteur de théâtre, qui avait fait un peu de comédie. Et quand il l'a pris dans Pour une poignée de dollars, il en a fait un personnage de dur. Il a retrouvé un personnage qui avait fait que des petits rôles ou des seconds rôles comme les Van Cleef. Bon, donc il avait l'art de trouver des gens comme ça. Mais il cherchait aussi les anciens. Je me souviens quand il préparait Une fois en Amérique, il m'avait montré une photo d'un type dans dans un film des années 40. On m'a dit, de vol ou non, je vais à New York, je veux savoir s'il vit encore. Et en effet, il vivait encore et il fait une petite apparition dans Une fois en Amérique. Il avait une grande fidélité à cela. Mais c'était pas... C'est vrai qu'il découvrait les gens, mais il découvrait ce qu'ils avaient de bon, en fait.
Il était une fois en Amérique. Robert De Niro évoque sa direction d'acteur, celle de Sergio Leone.
Sergio était un réalisateur très simpatico, si vous permettez l'expression. J'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Il avait un très grand sens de l'humour. Vous savez, parfois, lorsque vous travaillez avec des réalisateurs, comme dans le cas de Sergio, lorsqu'il décrivait une scène, je disais, eh bien, pourquoi tu ne me montrerais pas comment tu sens les choses ou comment tu jouerais la scène ? Parce que c'était tellement personnel pour lui. Et il me montrait ce qu'il voulait, physiquement ou dans la façon de jouer. Et je disais, ok, j'ai compris, je vais le faire comme tu dis, c'est exactement comme ça qu'il faut le jouer. Avec certains réalisateurs, vous pouvez faire exactement comme ils disent, c'est tellement clair dans leur tête et à la fin c'est parfait.
Il arrivait aussi avec une façon européenne, voire italienne, de diriger ses acteurs. C'était une des particularités.
C'est-à-dire qu'il s'est passé une chose importante avec De Niro. Ça, c'est très important. Sergio avait réalisé tous ses films en ce qu'on appelle en son témoin. C'est-à-dire que c'était pas le son qu'il y aurait dans le film et tout se faisait après en auditorium. Et De Niro n'a pas voulu. De Niro lui a dit, ça a duré longtemps, ça a duré 12 ans, il voulait faire le film, c'est le seul du projet initial qui est resté jusqu'au bout, De Niro. Et De Niro lui a dit, non, moi je veux que ce soit le son direct, je veux que ce soit le son que je joue qui soit là. Et donc il avait demandé à Marco Ferreri, est-ce que tu connais un très 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 bon pour faire ça en France? Parce qu'en Italie, il n'y a pas, en Italie on fait jamais de film directement avec le son. Et Ferreri lui avait conseillé quelqu'un, qui était de la bande à Bonfanti, qui l'avait pris. Et pour la première fois de sa vie, Sergio m'avait dit avant le tournage, j'ai un peu peur, parce que c'est la première fois où le son qui allait être pris pendant les prises serait le son qu'il faudra garder et non pas le son qu'on peut refaire en studio. Et De Niro avait exigé ça et en conséquence, du coup, Leone pouvait exiger ce qu'il voulait de De Niro.
Et qu'est-ce qu'il a apporté à Clint Eastwood, autre grande collaboration ?
Il a apporté le fait que Clint Eastwood, dans les films qu'il avait tournés jusque-là, faisait des petits garçons bien proprets, bien gentils, bien clean, très avec cet accent, cette façon de parler sur le souffle qu'avait Clint. Yes, yes, oh yes, I'm happy to be here. Bon, et que quand il l'a arrivé, il lui a dit, voilà, tu vas fumer ces cigares qu'il faisait aller vomir. Il l'a fait, tu te rases pas. Et il en a fait un personnage de dur. Mais il aimait bien ça jouer. Hein, quand il prend Henry Fonda, qui n'a jamais fait de mal dans sa vie, pour faire un assassin d'enfant, il adorait jouer avec ça. Et il a appris une chose à Eastwood, à mon avis, c'est que Eastwood avait des propres démons qui pouvaient lui être utilisés dans son jeu de comédien. C'est ça qu'il lui a appris. Et on a vu les films qu'a réalisés par la suite Clint et comment il a fait.
Réalisateur de Pour une poignée de dollars, Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, La Brute et Le Truand et tant d'autres. Comment lui, Sergio Leone, bascule-t-il vers le western? On peut être un bon réalisateur de western sans être américain. Lui pensait que oui.
J'ai commencé à faire des westerns parce que je trouve que les westerns... C'est, si vous voulez, un fable merveilleux qu'il a été ami pour tous les garçons, que ça va de 5 années jusqu'à 80. Et alors, les dernières années, j'ai trouvé que les Américains en avaient oublié cette façon de faire. Et alors, moi, que je suis italien, j'ai tenté et j'essayais de réinventer une fable. Et alors, je crois que ça ne va pas la peine d'avoir la nationalité américaine pour une fable. Mais vous savez, je me suis formé dans une école néo-réaliste. Et alors, je vois avec des yeux européens et surtout avec un peu plus de réalité. Ça veut dire que c'est une fable mélangée, si vous voulez, à la réalité.
Un raconteur d'histoire, Sergio Leone, la force de la fable, ça c'est un genre universel qui explique qu'il ait pu s'emparer du western, presque mieux que les Américains.
C'est-à-dire que si on est très clair au début, quand il était jeune, il voulait faire un film Viale Glorioso, et Viale Glorioso, quand il a vu Vitelloni de Fellini, il a dit « ce salaud, il m'a piqué mon scénario », ce qui n'était pas vrai. Mais bon. Et par la suite, il voulait faire un film noir. Il n'aimait pas beaucoup le western. le western, c'était pas sa première, disons, préoccupation.
Mais son père lui en parlait déjà beaucoup, hein. Vous le racontez dans la bande dessinée,
oui,
il évoquait cette question du western.
Oui, parce que son père avait réalisé un western italien avec sa mère dans les années 20. Mais c'était pas ça. Et brusquement, peu à peu, il s'est conduit, il a fait Pour une Nuit de l'air un peu par accident, parce qu'il y avait rien d'autre à faire, quoi. Bon. Et le succès a été tel qu'il ne pensait pas faire une suite, mais il a été escroqué par les producteurs à la Jolie. Donc il a demandé à Grimaldi, qui était un avocat, deviens producteur avec moi et on va faire une suite et on va tout casser. Et ça a tellement bien marché avec Eastwood qu'il a dû faire un troisième. Et après, les États-Unis l'ont fait venir. Et là, ils voulaient faire L'Était une fois en Amérique, mais ils lui ont dit, oui, c'est très bien, mais faites-nous d'abord encore un western. Ça a été Il était une fois dans l'Ouest. Et quand il y a une fois la Révolution, il ne devait pas le réaliser lui, c'était Peter Bogdanovich. Et ça s'est très, très mal passé avec Peter Bogdanovich, qu'après, il l'a réalisé. Mais en fait, il n'a réalisé que pour une poignée de dollars volontairement. Après, les autres, ça s'est fait obligatoirement. Et il allait vers le film, le dernier film qu'il a fait, qui était le film de sa vie, qui est un film noir.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Ce premier volume sur Sergio Leone, Noël Cimsulo, s'ouvre sur la jeunesse du réalisateur. Son goût pour les plateaux, l'influence de son père, le cinéaste Roberto Roberti, blacklisté sous Mussolini. Il était prédestiné à faire de la réalisation, à faire du cinéma. Ou vous pensez qu'il y a aussi quand même une part de revanche par rapport à ce qu'a vécu sa famille?
Et d'abord qu'enfant, il racontait aux enfants de Gianicolo que son père avait inventé le cinéma. Bon, déjà, bon. Et il avait un amour de son père. Et je pense qu'il a été fasciné par le cinéma. Il a voulu en faire. Il est venu sur un plateau de son père qui avait un film en retard, qui avait pu tourner un film pendant le fascisme, il n'en a tourné qu'un. Bon, et il l'a vu travailler. Et son père ne voulait pas qu'il fasse du cinéma. Et c'est sa mère qui a dit, laisse-le faire. Et il est devenu assistant. Mais en fait, vous savez, il était fasciné par les bandes dessinées. Il était fasciné non pas par les bandes dessinées d'Ouest, mais par une bande dessinée bien précise qui est Cino e Franco en Italie, qui est Raoul et Gaston en français, Tim Stellers en anglais, et qui est de Lyman Young, et qui est l'histoire de deux jeunes scouts dans le bush australien. Et c'est important parce que Sergio n'avait pas de frère. Sergio était seul. Toute sa vie, il s'est cherché un frère. Un frère cadet ou un frère aîné, mais c'est chercher un frère. Et toute sa vie, tous ses films racontent quoi? L'histoire d'un aîné et d'un plus jeune qui se mettent d'accord ensemble. Bon. Et c'est ça son thème. L'amitié.
Et son goût pour la bande dessinée, on le retrouve dans son cinéma?
Ah, totalement. Il est évident que Sergio avait une immense culture du surréalisme, des tableaux surréalistes, il avait des choses, mais la bande dessinée, il connaissait parfaitement bien. Et moi, j'ai beaucoup parlé avec lui de ça, vu que c'est une de mes marottes. Et d'abord, il pensait ses films, disons, comme un storyboard, c'est-à-dire qu'il n'écrivait pas les scénarios, il dictait les scénarios en les mimant. Claudia Cardinal m'avait raconté que quand il était venu la voir pour Était une fois dans l'Ouest, il est arrivé et il a passé la journée à lui mimer tout le film. Et là, il arrive, pan, il tire. Là, elle se retourne. Ah, fait-elle. Bon. Et en fait, c'était des images fixes. C'était comme des images de bande dessinée. Et c'est vrai que si l'on veut prendre les films de Leone pour en faire des bandes dessinées directes, c'est pas compliqué. La preuve, c'est que les gens de bande dessinée importants, comme Jigé ou comme Giraud, Mobius, ont été fascinés par son style. Et on retrouve dans la bande dessinée d'après Leone, ceux qui font des westerns, une influence extrêmement importante. De même qu'au cinéma, on trouve son influence chez des gens comme John Woo ou comme Tarantino.
Bon. Et le cinéma que vous affectionnez aussi, que vous pratiquez, on le retrouve aussi dans cette nouvelle collection de bandes dessinées, en tout cas dans la vôtre, consacrée, dédiée à Sergio Leone, une bande dessinée très scénarisée, avec une écriture assez filmique. Là, vraiment, on est pied pour pied dans cet esprit du storyboard aussi. Vous dites que ces deux arts qui se croisent, le 7e et le 9e, qui se rapprochent, qui ont naturellement des affinités, voire qui pourraient prendre leur source au même endroit, dans une littérature, la littérature une littérature populaire.
Absolument. Ils sont nés en même temps. Hein. Ils sont nés en même temps. Le cinéma est né en même temps que la bande dessinée et en même temps que ce qu'on appelait le roman noir, c'est-à-dire les pulp magazines de roman noir, où c'est le behaviorisme, le comportement. Donc on voit quelqu'un, comment il se comporte et non pas ce qu'il pense. Et c'est vrai que les films muets sont faits comme des bandes dessinées et que ça s'est interpénétré complètement. Oui. D'ailleurs, la preuve, c'est que les grands cinéastes comme Hitchcock, ceux-là, ils dessinaient leurs films plan par plan avant. On pourrait publier en bande dessinée les storyboards des oiseaux ou les faisait dessiner par d'autres. Oui, bien sûr. Et en même temps, culturellement aussi, parce que moi, je suis né en 44, et c'est vrai que juste après la guerre, qu'est-ce que c'était, disons, la culture pop? C'était pas le mot à l'époque, c'était la bande dessinée, c'était le roman d'aventure, c'était le cinéma, et c'était les chansons à la radio.
Mais comment mettre du son dans une bande dessinée? Vous racontez aussi pour Sergio Leone sa proximité avec Jean-Luc Godard, cette passion pour le mariage de l'image et du son et cette réflexion qu'ils pouvaient avoir l'un et l'autre autour. On peut aussi évoquer son compositeur fétiche, en quelques notes. Man with an harmonica, Ennio Morricone, la musique, les dialogues, le son, mais aussi les silences. Sergio Leone.
Sergio, il disait toujours, mon premier dialoguiste, c'est Ennio Morricone. Et ça se passait comme ça, il disait à Morricone, voilà, je veux des thèmes, les thèmes existaient, et après les thèmes, il les avait dans la tête quand il réalisait, et on peut même dire que dans certains cas, il envoyait sur le plateau la musique. Pour que les gens jouent sur les rythmes de la musique. Par exemple, le célèbre mouvement de caméra qui fait l'arrivée de Cardinal dans la garde, il était une fois dans l'Ouest, il est évident que ça a été répété toute la journée pour que ça tombe pile le mouvement avec la musique qui existait, qui était donc envoyée sur le plateau. Bon, et c'était là-dessus. Parce que autrement, Sergio, c'est pas très bavard, ces films. Les gens ne parlent pas énormément dans les films de Leone. Bon, mais il y a beaucoup les bruits, il y a beaucoup les sons. Et quand il disait sur Godard, il disait que Godard et lui, c'était ceux que quand ils imaginaient un film, ils pensaient d'abord les images et le son avant l'histoire. Et c'est ça le cinéma c'est qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que j'entends, et non pas qu'est-ce que je pense.
Alors vous montrez aussi dans cette bande dessinée les tournages, il était une fois dans l'Ouest, c'était en 68, comment ça se passait, mais on avait encore une question, enfin je, que j'avais envie de vous poser. Vous avez, vous, tourné dans une cinquantaine de films depuis 72 et La maman et la putain de Jean Eustache, dès 72 vous écrivez sur Sergio Leone, mais pourquoi jamais dans un film de lui, qui savait pourtant détecter les talents, non?
Mais c'était pas important, mes rapports étaient pas comme ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. Récemment, un de mes amis me dit, j'ai pas compris comment Claude Berry, qui était un ami à toi, ne t'a jamais produit de film. J'ai dit oui, on déjeunait souvent ensemble, mais ni lui ni moi ne lui demandait, on se demandait de faire un film. Et Sergio m'a jamais demandé de jouer dans ses films. Il m'a demandé une fois d'être son assistant permanent. Je lui ai dit, je ne veux pas. Je reste ton ami et je peux te servir de factotum quand t'es à Paris ou quand tu me fais venir quelque part. Mais je ne veux, mais bon, il m'a pas proposé. J'allais pas lui dire, prends-moi comme acteur. J'ai été acteur avec des Italiens comme Ferreri. J'étais scénariste aux Ferreri, mais si quelqu'un vous le demande pas, pourquoi je vais lui demander moi, de quel droit? De toute façon, est-ce que j'ai une tête à être dans un film de Sergio Leone? Vous me voyez, moi, me battre avec Clint Eastwood? Il gagnerait.
Mais vous êtes un malin. Petite carrure. Attention, ça veut rien dire. Merci à vous. Vous restez avec nous, Noël Simsolo. On part à Cannes faire un petit détour, puisqu'il est midi 24 déjà. Le Festival de Cannes, présidé cette année par Pierre Lescure. Alors, vous n'y serez pas, nous disiez-vous, Noël Simsolo, mais peut-être vous vous y intéresserez un peu de loin. Le festival qui donnera ce soir le coup d'envoi de sa 72e édition et qui verra cette année encore défiler les grands noms du cinéma sélectionné par Thierry Frémaux, de Terrence Malick à Quentin Tarantino, Pedro Almodovar ou encore Ken Loach, des Français comme Céline Sciamma ou encore Abdelatif Kechiche. Un jury présidé cette année par le cinéaste mexicain Alejandro González Iñárritu.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Et pour ouvrir cette nouvelle édition, The Dead Don't Die, les morts ne meurent pas, de l'américain Jim Jarmusch, un habitué du festival où il a fait ses débuts il y a 35 ans avec Stranger Than Paradise, son premier long métrage, Caméra d'or à Cannes en 84, huitième fois cette année en sélection officielle. Dead Don't Die.
In this peaceful town, on these quiet streets, something terrifying, something horrifying is coming.
Excuse me, we're closed. Get away from me!
What the hell was it? A wild animal?
This is really awful. Maybe the worst thing I've ever seen.
What was it, wild animals?
So what are you thinking?
I'm thinking zombies.
What?
You know, the undead. Ghouls.
You look gorgeous. Oh my.
Et avec nous dans nos studios à Cannes, Philippe Azoury, qui rédacteur en chef, pardon, culture de Vanity Fair, critique à la dispute, cinéma d'Arnaud Laporte sur France Culture. Jim Jarmusch, une autre allure chez Capricci, c'est l'ouvrage que vous avez consacré au réalisateur qui fera donc l'ouverture cette année du Festival de Cannes. Bonjour Philippe Azoury. Bonjour Philippe Azoury. Noël Simsolo, vous allez devoir parler de Jim Jarmusch. Bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous ? Non, on ne vous a pas pour l'instant. Film de zombies.
J'ai rencontré Jim par Wenders au moment de sa journée de paraître dans la Cannes. Et Wenders a fait une véritable campagne énorme pour qu'on reconnaisse ce film. Il se prenait avec le badge et tout ça et tout. Et ça a été une grande surprise, Stranger Than Paradise, un miracle, qui a été pris à la caserne des réalisateurs par Pierre-Henri Delot. Et par la suite, les autres films ont été intéressants. Et Jarmusch est quelqu'un, de toute façon, qui suit sa propre ligne tout en la faisant traverser par des genres. Quand il décide de faire un western, ça devient Dead Man, où il y a l'ombre de William Blake, ce qui est quand même pas n'importe quoi. Et j'ai pas encore vu ce dernier film, mais je pense que si ça va être bien sûr une histoire de zombies, il va jouer le jeu.
Oui, c'est ça. Et qui
mais
fait, et
à la Jarmusch.
Qui fait parfois dévier cette trajectoire. Alors déjà, un film de zombies en ouverture de Cannes, ça c'est une première, mais surtout que le réalisateur de Ghost Dog, de Dead Man, de Patterson se penche sur ce genre, ça a peut-être quand même, en fait, comme vous le dites, plus de cohérence qu'on ne le pense avec sa filmographie.
Mais c'est ça qui est formidable. Il fait Patterson et après il fait un film de zombies, c'est ça qui est merveilleux.
Et c'est un film qui va signer aussi ses retrouvailles avec une grande famille d'acteurs, avec Bill Murray, avec Iggy Pop, bon, et Tilda Swinton par exemple, Adam Driver qui l'a fait tourner dans Patterson récemment. C'est le retour au cinéma de la famille d'acteurs pour lui, comme on a bien connu dans les années 70-80.
Ils sont deux à vraiment faire ça, c'est lui et Tarantino. Quentin fait exactement pareil, c'est des familles d'acteurs, et je pense que c'est la grande leçon que John Ford, que Fassbinder, que Godard, que ces gens-là nous ont appris, c'est que quand Bergman, une famille d'acteurs, ça permet justement d'aller un peu plus loin. Et quant à Léon, la famille, elle était vraiment là dans les films. On les retrouve tous.
Mais vous n'avez pas l'impression quand même de louper un peu votre entrée en n'allant pas vous à Cannes depuis toutes ces années, Noël Simsolo? C'est quand même un temps fort. Vous regrettez pas de pas être là-bas pour voir tous ces films qui vont y être présentés?
Dans les films, on les verra. Puis le problème, vous savez, moi, j'ai fait beaucoup de choses déjà. J'ai 75 ans. Je vais faire encore peut-être un ou deux scénarios de bande dessinée. Et puis peut-être que j'ai commencé aussi à regarder autre chose que les livres et les bandes dessinées. Peut-être que je vais aussi m'asseoir devant la mer et puis la regarder. C'est peut-être beau, la mer, à regarder.
Ça doit être pas mal. Dans une salle de cinéma, ça peut arriver aussi qu'on y rencontre la mer.
Mais vous préférez la vraie.
À noter que ce soir, la cérémonie d'ouverture du 72e Festival de Cannes, suivi du film de Jim Jarmusch qu'on évoquait, The Dead Don't Die, sera projetée dans plus de 500 salles partout en France. C'est une nouveauté cette année. Merci beaucoup à vous, Noël Simsolo, d'avoir été avec nous. Pardon à Philippe Azoury, la connexion n'aura pas fonctionné, mais on vous retrouvera peut-être demain pour un débrief, puisque le film de Jim Jarmusch sera donc présenté ce soir à Cannes. Je rappelle le titre de cette bande dessinée que vous co-signez avec le dessinateur Philan, Sergio Leone. Ça paraît chez Glénat à l'occasion des 50 ans de la maison d'édition dans cette nouvelle collection 9 et demi. Merci.